Bonjour à tous. Ah, c'est bon, vous m'entendez tous. Bonjour aux Choletais. Bienvenue à chacun. On est heureux de passer ce moment-là ensemble. Et ce matin, j'aimerais prendre ce temps-là pour partager la parole avec vous. Parce que la parole, elle est bonne. Parce que la parole, elle nous permet d'être édifiés. Elle nous permet de connaître la volonté de Dieu et de nous aligner sur celle-ci. Et il est vraiment précieux qu'on puisse le faire. Et ce matin, j'étais heureux de voir Pascal et Elodie rappeler aussi ce qui s'était passé pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le match? Ouais, vous avez eu le match? C'était bon, hein? C'était bon, on a gagné, on est champion du monde, c'est la fête. Et moi, j'étais interpellé parce que c'était pas tant le fait que voilà, il y ait le match, on gagne, mais plutôt quand je me retrouvais face avec ceux avec qui j'étais. Et qu'il y avait un but. Et quand il y avait Pogba là qui venait de marquer le but, qu'est-ce qui s'était passé? On a marqué. Il y a eu Mbappé, pareil. On a marqué. Et c'était la fête. Et le plus impressionnant encore, c'était une fois que je suis rentré à la maison, on était là avec Daniel dans la voiture, les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait bien chaud. Et puis on avançait et on descendait à un moment le boulevard Carnot. Et puis en descendant le boulevard Carnot, on allait au pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de monde qui était là dans la rue. Ils étaient tous là en train de faire la fête. Ils étaient tous là en train de célébrer. Et ils venaient tous, il y en avait à droite, à gauche qui passaient. Et ils venaient tous le long des voitures. Et ils venaient me voir. On ne se connaissait pas. Mais ils étaient là dans la joie. Et qu'est-ce qu'ils disaient? On est champion du monde. Ils me regardaient. Je ne les connaissais pas. Mais c'était comme s'il y avait un lien là qui nous unissait à ce moment-là. Vous avez vécu ça ou non? Ouais. Il y a ce lien-là qui nous unit et c'était fort parce que même si on ne se connaissait pas, même s'il n'y avait rien qui nous unissait, à ce moment-là, parce qu'il y avait le foot, parce qu'on avait gagné, il y avait quelque chose qui nous unissait. Et à ce moment-là, la joie qui était dans le cœur, ça ne dépendait pas de la culture, c'était on représentait la France et on célébrait Dieu. Et on célébrait qui le football. Et c'est pour venir à mon point. Vous m'avez vu venir, hein, de toute façon. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y avait une liberté énorme à ce moment-là. Et ça ne dépendait pas de la culture. Ça ne dépendait pas qu'on soit blanc ou noir. Ça ne dépendait pas qu'on puisse avoir une conception ou une autre. Si on était français, on était unis. Et ce matin, si on est ensemble, ce n'est pas pour célébrer une victoire d'une Coupe du Monde. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour célébrer le grand Dieu, celui qui règne en majesté. Et à ce moment-là, alors qu'ils étaient tous unis, j'aimerais qu'ensemble, alors que nous aussi nous sommes tous unis, on puisse rendre gloire à Dieu comme il se doit. Quand vous étiez devant votre match de foot, et si vous êtes là dans la louange, et peut-être parfois dans l'église, on est plus ou moins gêné pour chanter fort, pour acclamer Dieu, pour danser, pour je ne sais pas quoi. Des fois, ça dépend de la culture. Mais je vous le dis, quand j'ai vu là, ceux qui étaient d'habitude renfermés, quand ils ont vu le match de foot, c'était plus les mêmes. Et j'aimerais qu'on puisse tous ensemble, d'une même voix, acclamer le grand Dieu, comme quand vous étiez au match, mais parce que c'est le roi des rois. Alléluia! Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble ce matin? Alléluia! C'est bon! Dieu est là! Alléluia! Ah, c'est bon! Amen! Amen! Quelle victoire nous avons! Quelle victoire nous avons parce que nous sommes réconciliés avec Dieu et on l'a chanté. Le voile s'est déchiré et on a accès à sa présence. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ça parce que c'est tellement important pour nos vies, le rétablissement de cette relation. Mais le problème, c'est que parfois dans nos vies, il y a des choses qui bloquent la rencontre avec Dieu. Il y a des choses qui viennent un peu frictionner avec ce que Dieu veut. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un personnage de la Bible, un homme qui avait bien commencé, mais qui a plutôt mal fini. Et c'est bon de s'intéresser aux hommes et aux femmes de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'ils nous enseignent sur nos vies. Et ils peuvent nous en apprendre plus sur l'état de notre cœur. Ils peuvent nous en apprendre plus sur notre relation avec Dieu. Et voir un petit peu comment elle est la nôtre, en comparaison peut-être avec ce qu'eux, ils ont vécu. Et j'aimerais m'entretenir avec vous de cet homme-là qui avait bien commencé, qui avait été oint par Dieu, qui est devenu roi. C'était d'ailleurs le premier roi d'Israël. Vous voyez de qui je parle ? Ouais, Saül. Je vais vous parler de Saül ce matin. On sait souvent qu'il a mal tourné. Il y a peut-être déjà eu des enseignements avec ça, mais j'aimerais qu'on s'intéresse particulièrement à ce que lui a vécu, parce que ça va nous en apprendre plus sur notre caractère. Et le péché de prime abord, on pourrait un peu le négliger, ce qu'il a fait, mais il a une importance particulière, et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu l'a renié. Et on va voir en quoi c'est important. Vous connaissez ce verset, « Je suis saint, soyez saint, car je suis saint ». Ça, c'est Dieu qui dit ça. Ce n'est pas facile de l'être dans notre quotidien. Et si vous voyez où je veux en venir, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de changer sa perspective, et je vais vous parler à travers ça de la repentance. Ça fait écho à ce que Xavier aussi a pu partager quand il a prêché sur Jonas dernièrement. Et je crois que c'est important qu'on puisse s'arrêter là-dessus, parce que je crois au plus profond de mon cœur que s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de multiplication. On parle de ça depuis un moment, mais si on veut un changement dans nos vies et dans la vie de cette Église, sans repentance, pas de changement. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux de s'intéresser à ça, pas pour nous pointer du doigt, mais simplement pour que notre cœur soit révélé et que ça nous amène à nous dire « Oh, j'ai encore plus besoin de Dieu que je ne le pensais. » Et c'est pour ça que je vais m'approcher du trône de la grâce pour être en connexion avec lui, pour s'approcher de lui, pour connaître sa volonté et m'aligner sur la sienne. Ça, c'est la puissance de l'Évangile face à notre péché qui ne devient pas de la culpabilité, mais nous amène à dépendre plus de Dieu. Pas de repentance, pas de multiplication. On peut prier pour ça, mais il n'y a rien qui se passera. Et je me suis dit, mais dans l'Église, comment ça se fait qu'on est 400 ? Pourquoi on n'est pas 4000 ? 40 000 ? Comment ça se fait ? Ça peut paraître énorme, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Comment ça se fait ? Mais Dieu, il a voulu composer avec nous. Mais pour composer avec nous, on a besoin aussi d'être connecté à lui pour connaître sa volonté, d'une part, et puis se mettre en action pour accomplir sa volonté. Et je crois que la croissance de l'Église, elle va pleinement passer par notre relation avec Dieu et la dépendance qu'on va avoir avec Dieu. On peut prier pour avoir un nouveau local, on peut prier pour avoir une plus grande église, mais s'il n'y a pas de repentance, on pourra avoir une plus grande église, il n'y aura pas plus de personnes dedans. Et pourtant, il y en a plein qui sont perdus, il y en a plein qui ont besoin de Dieu, il y en a plein qui ont besoin de connaître l'Évangile. Et c'est ce pourquoi je voudrais m'attarder ce matin. Alors, on va s'intéresser, comme je vous le disais, à Saül. Et j'aimerais expliquer un petit peu qui il était, parce que c'est en sachant un petit peu qui il était, comment il fonctionnait, ses qualités, ses défauts, les choses qu'il avait, qu'on va pouvoir après pleinement s'attarder sur le temps crucial que vous connaissez peut-être, puisqu'on vous l'a certainement enseigné pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, pour ceux qui ne sont pas là, ce n'est pas grave, on va pouvoir connecter ensemble et voir qui il est. Alors, qui est Saül ? Saül, on nous dit qu'il appartient à la tribu de Benjamin. C'était le fils de Kish, un guerrier. Et ce guerrier-là, en fait, il était renommé à l'époque. Et si bien qu'on peut s'attendre à ce que Saül, de la même manière, soit aussi touché par son père et impacté par son père dans son éducation. On peut s'attendre à ce que Saül, ce soit un guerrier. Et c'en était un. C'était un guerrier, il avait des qualités physiques. On nous disait qu'il était beau, on nous disait qu'il dépassait tout le monde de la tête. Donc il avait des qualités qui étaient là, qui pourraient annoncer que s'il était un leader, ben, ça ne nous dérangerait pas trop. D'ailleurs, on voit aussi que par son attitude, il a aussi des qualités morales. On sait que la première fois qu'on entend parler de lui, en fait, son père l'envoie pour aller chercher des brebis qui sont perdues. Et Saül obéit, il part avec un des serviteurs de son père et il va chercher les brebis qui étaient perdues. Et il était obéissant, il était fidèle. Même que lorsqu'il commence à tarder pour retrouver les brebis, il dit à son père, enfin, il dit à son au serviteur qui était avec lui, on va peut-être rentrer parce que là, mon père, il va peut-être s'inquiéter. Il prenait considération des autres. Il avait des qualités physiques et morales qui faisaient que on pouvait se dire que c'était peut-être le meilleur d'entre les fils d'Israël à l'époque. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu a dit à Samuel, oint-le, amène-le à être roi, parce que le peuple veut un roi. Le peuple voulait un roi, pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptaient plus l'autorité de Dieu. À ce moment-là, en fait, le peuple d'Israël, il disait, « Oh, tous les peuples autour, ils ont des rois. Nous aussi, on veut un roi, on veut faire comme tout le monde, parce que tout le monde fait ça, donc on fait tous ça. » Et on veut un roi. Et Samuel, il est en colère d'ailleurs de ça, mais il obéit à Dieu et il commence à s'entretenir avec Saül. Et quand il s'entretient avec Saül, il lui parle de ses brebis, puis il lui annonce un petit peu ce qui va lui arriver. Et puis, en fait, il va l'équiper. Et il le dit, quand il parle dans Samuel, il dit « Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux, et tu seras changé en un autre homme. » Et puis ensuite, il dit « Agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » En fait, il souligne que lorsqu'il va rencontrer les prophètes, parce que c'était l'épisode, le contexte, il souligne que lorsqu'il va rencontrer les prophètes, l'Esprit de Dieu va tomber sur lui, il va être revêtu de l'Esprit de Dieu, il va être changé en un autre homme, et puis l'Éternel sera avec lui à partir de ce moment-là. C'est un beau départ, ça, hein ? C'est un beau départ, il y a tout ce qu'il faut pour que ça commence bien. Il y a tout ce qu'il faut pour se dire que oui, ça va bien se passer. Quand Samuel vient parler à Saül la première fois, en fait, c'était en privé. Il n'était pas là en train de l'exprimer à tous, mais il était là en privé avec lui pour pouvoir lui présenter ça. Et bah, Saül, il retourne chez lui, il retourne, et puis quand il voit son oncle, d'ailleurs, il ne lui dit rien. Quand il retourne voir son oncle, il lui dit rien, il laisse juste le temps passer. Et d'ailleurs, quand il dit rien, généralement, on prend cette action pour de l'humilité. Alors, c'est possible. C'est peut-être aussi qu'il est un peu intimidé, peut-être qu'il a peur. On ne sait pas trop, mais on va le voir un peu plus tard, en fait, ce qu'il en est vraiment. Regardons maintenant l'élection publique qu'il a eue. Alors, je vous balaye ça, hein. Vous êtes toujours avec moi, c'est bon ? Ça prend un peu de temps là, mais je veux volontairement prendre le temps parce que vous allez voir après ce qui va se passer. L'élection publique, en fait, ça se passait comment ? Il y avait un tirage au sort. Et le tirage au sort, c'était un acte profondément spirituel, hein. C'est pas comme le loto. C'était un choix de Dieu parce que c'était plus les hommes qui allaient choisir, c'était Dieu qui allait choisir et qui allait établir. Et comment ça se fait ? En fait, ça commence par un choix, un tirage au sort parmi les 12 tribus. De cette tribu-là, ben, y a Benjamin qui est choisi, la tribu de Benjamin. Puis après, la famille. Donc là, c'est la famille avec le père Kish et toute la famille qui est tirée au sort. Et puis, après, ça a été Saül. Et il est dit, hein, dans le verset suivant, « Ce fut Saül, fils de Kish, qui fut désigné. On le chercha, mais on ne réussit pas à le trouver. » Comment ça ? On ne réussit pas à le trouver. Où se trouve Saül, où est-ce qu'il se trouve ? Et il est dit juste après, il demande à Dieu, l'Éternel répondit, « Oui, il se cache du côté des bagages. » Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait du côté des bagages ? Bon, de vous à moi, là, ça c'est de l'humilité ça ? Non, il a peur. On a l'impression qu'il est vraiment intimidé, il manque d'assurance. Là, ce n'est pas de l'humilité. C'est de la peur. C'est de la peur. Et cette peur-là, ben le problème, c'est que peut-être qu'elle va lui jouer des tours. Alors, tous ces critères-là, pourtant, faisaient qu'on avait l'impression que ça répondait aux critères des Israélites. Parce que quand il est arrivé, quand même, vu qu'il dépassait tout le monde de la tête, même s'il s'était caché, les gens, ils sont là, ils se disent « Ouais, quand même, le gars, ouais, ça me va s'il est roi. S'il a une épée, vu que je suis obligé de le regarder comme ça, ça va poser problème si je me retrouve face à lui. » Alors, mais il y a deux réactions quand même. Il y a ceux qui le suivent, puis après, ils lui offrent des présents, il y a tout un rituel qui est fait, puis il y a des vauriens qui sont là. Il le dit comme ça, hein, c'est des vauriens qui commencent à se dire, mais en substance, ils disent à Samuel, tu nous as envoyé quoi comme roi là? Qui c'est que tu nous as envoyé? C'est pas sérieux, nous on ne veut pas un trouillard qui se cache dans les bagages. Nous on veut un roi, même s'il est grand là, on veut un roi qui a de l'autorité, qui a de la poigne. C'est pour ça que d'ailleurs, ils commencent à le critiquer. Et il se moque de Saül, mais Saül ne fait rien, aucune réaction. De l'humilité? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vient la première bataille, une bataille superbe. Première bataille, c'est une confirmation. On voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a première bataille, il y a Saül qui se retrouve en fait face à des Ammonites qui sont menés par un roi qui veulent attaquer une ville. Et puis, la ville, il commence à avoir peur et il commence à envoyer des émissaires pour aller chercher Saül, lui dire « Mais Saül, viens nous aider là, t'es le roi maintenant, viens nous aider. » Et à ce moment-là, quand il apprend la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Éternel, le Saint-Esprit qui tombe sur lui et là, il commence à se mettre en colère. Saül, il est en colère et il se dit « Oh là là, là, ça ne peut pas se passer comme ça. » Je refuse qu'Israël soit malmené comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lancer un rituel de sacrifice et il coupe des bœufs. Il coupe deux bœufs et lorsqu'il les coupe, il prend les morceaux et il envoie dans toutes les tribus d'Israël et il dit celui qui me suivra pas, il se retrouvera comme ce morceau-là. En gros, si vous me suivez pas, je vais vous hacher menu. D'accord? Si vous ne me suivez pas, vous allez être haché menu. Tout le peuple suit. Tout le peuple suit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a l'autorité. L'autorité qui vient d'où? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Il est revêtu de l'Esprit, il y va. Première bataille, c'est une victoire, quelque chose d'éclatant. Ok? Tout ça, ça se passe. Et une fois que la victoire est remportée, il y a le peuple qui va voir Samuel d'ailleurs le peuple il se disait tu te rappelles Samuel ces vauriens là qui commençaient à parler de Saül en mal là va nous les tuer là s'il te plaît là parce que ces vauriens là ils sont moqués du roi va les tuer. Et Saül qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, les tue pas, c'est une grande victoire pour l'Éternel. Alors très bien, c'est le choix de Saül. C'est une grande victoire, mais je crois que oui, il veut célébrer Dieu à ce moment-là, mais je pense qu'il ne considère pas que quand Saül avait été déshonoré, ce n'était pas Saül qui était déshonoré, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait choisi, c'est Dieu qui l'avait établi. Donc si on commençait à remettre en cause le choix de Dieu, ça veut dire qu'on mettait en cause Dieu lui-même. Et là, à ce moment-là, Saül, il pensait à lui. Il disait non, c'est bon, on va faire la fête. Et il n'assume pas l'autorité qu'il a et les vauriens qui étaient là, qui étaient sur son chemin et qui pourtant s'en sont sortis. C'est une interprétation. C'est une interprétation. Voilà un petit peu le personnage. Vous voyez là maintenant? Ça va? Alors, je n'ai pas lu les textes qui concernaient tout ça. Je vous ai raconté l'histoire parce que je voulais avancer assez vite pour revenir au point essentiel. Le point essentiel, évidemment, comme vous attendez tous, c'est le péché de Saül. Et le péché de Saül, on va le voir dans la perspective humaine et on va l'opposer à la perspective céleste. Perspective humaine versus perspective céleste. Laissez-moi vous expliquer le contexte. Le contexte, c'est que le peuple hébreu, là, il commençait à se dire « Ah oui, on est quand même un peuple, là, on a un roi, on est bon ». On est bon. Et le peuple hébreu, il commence à se révolter contre les Philistins, c'est les ennemis de toujours d'Israël. Et Jonathan, il marque cela en abattant une stèle qui avait été érigée pour les Philistins. C'est un monument que les Philistins érigeaient et ça permet du coup de marquer une certaine défiance. Saül convoque alors tout le peuple et vient un peu une opposition. Israël s'organise de sorte qu'il y a l'armée qui vient. En face de lui, il y a les Philistins avec une armée forte et puissante. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, au niveau de l'usage du fer et l'usage des forges, Israël avait été dépouillé par le peuple philistin. Le philistin avait tout ça. Du coup, les philistins, ils étaient bien armés. Le peuple d'Israël, ils n'avaient pas de bonnes armes. En fait, les seules personnes qui étaient armées, c'était Saül et Jonathan qui avaient des épées. Les autres, c'était du matériel en fait, de paysans, des faux, des fourges, des choses comme ça. Voilà le contexte. Le truc, c'est que Saül, il était en train d'attendre à Gilgal et il y avait Samuel qui lui avait dit « Attends-moi 7 jours, et dans 7 jours, je viendrai et asseoir l'autorité de Dieu pour que la bataille puisse bien se mener. » Samuel allait faire ça. Mais Saül, il commençait à avoir peur au fur et à mesure que les jours passaient parce que Samuel ne venait pas. Et d'ailleurs, il nous dit que Samuel a commencé à avoir du retard. Et alors qu'il commençait à avoir du retard, Israël commençait à s'enfuir. Israël commençait à avoir peur. Israël commençait à se dire, mais Dieu nous a abandonnés là ? Ou qu'est-ce qui se passe ? Et alors que le peuple d'Israël commençait à s'enfuir de tous côtés, Saül avait la pression. Saül était en train de se dire, mais le peuple il s'enfuit, qu'est-ce que je vais faire ? Là, il y a les Philistins, ils sont nombreux, ils sont mieux équipés que nous, et pourtant je vais jamais m'en sortir. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit avant. Dieu avait promis à Saül qu'il était avec lui. Dieu avait promis à Saül qu'il avait son esprit qui était en lui. Et pourtant, il commence à stresser. Il est de plus en plus désemparé. Et au moment où il est le plus désemparé, voilà ce qui arrive. Et on va lire tout ce passage-là parce que ce passage est important. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demandait, « Mais qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. » Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Ensuite, Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait ordonné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants, avec un S, y gardent pour toujours la royauté. » Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef sur son peuple. La sentence tombe. Waouh. Bon, la sentence, elle est un peu rude, non ? Surtout si on la compare à quelqu'un d'autre. Vous rappelez le deuxième roi, David ? Alors, je ne vais pas compter toute son histoire, mais David, il a quand même péché contre Dieu, notamment lorsqu'il a pris la femme d'un de ses soldats, Bathsheba, et il l'a mise enceinte, et il a commencé à vouloir traficoter de sorte que son péché ne se voit pas. Et en voyant que ça ne marchait pas, il a manipulé pour faire tuer son soldat Uri au combat. De vous à moi, c'est quoi le pire ? Vous n'osez pas, mais là, on se dit, c'est le deuxième. C'est le deuxième, comment ça se fait ? Le changement de perspective, il est le suivant. Et il est résumé en ce verset. Dieu dit, Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, c'est-à-dire aux motivations. Et on va voir que ce changement de perspective-là, il va influencer particulièrement. On va voir un petit peu en quoi ce péché qui, pour nous, semble moins important que le péché que David a fait, on va voir que la perspective de Dieu, elle est un petit peu différente. Et on va voir en quoi. Et pour ça, il faut qu'on regarde les intentions de Saül avant, pendant et après le péché, pour nous permettre de comprendre particulièrement ce qui s'est passé, en quoi son péché, à ce moment-là, aux yeux de Dieu, il mérite cette sentence-là. Alors que David, pour résumer la sentence, elle s'est résumée en un trouble dans sa famille. Ce trouble-là, il était important, hein, on ne va pas le négliger. Mais entre perdre la royauté et avoir un trouble dans sa royauté, ce n'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, quand on disait que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, on va essayer de voir un petit peu pourquoi par la suite. Donc, rappelons, avant le péché, Saül, il était dans une situation critique. Il était sous pression. Est-ce que, d'ailleurs, nous non plus, quand on est sous pression, on ne fait pas des erreurs par hasard? Mince, nous aussi on en fait. Et Saül, il voulait bien faire, mais il était quoi? Il était dévoré par la peur. Ses émotions, elles prenaient l'ascendant sur toutes ses décisions. Sa peur, elle était devenue le moteur de son action, au point que lorsque la peur dominait, la foi était réduite à néant. Et d'ailleurs, on oppose souvent la peur à la foi. Et ce sentiment-là, en fait, de peur, il était là, il marquait l'insuffisance de Saül face à la situation. Il s'est dit, j'ai rien dans mes mains qui me permette de m'en sortir. Effectivement, il n'avait rien dans ses mains qui lui permette de s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il avait besoin? Pas ce qu'il y avait dans ses mains. Ce n'était pas ça l'important. Ce qu'il y avait d'important à ce moment-là, c'était la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, la définition, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, la foi, à ce moment-là, c'était synonyme d'assurance, c'était synonyme de courage, c'était une certitude qui lui disait, même si les circonstances, elles sont difficiles, Dieu il lui dit, moi, je suis là, je ne vais pas t'abandonner, je serai là, je vais te tenir dans mes mains, de sorte que tu n'as pas à t'inquiéter, même si la pression est grande, même si les circonstances ne sont pas là, je suis avec toi. Et quand on voit ce qui se fait passer avant que Saül pêche, Dieu lui avait dit, texto, je suis avec toi et n'aie pas peur. Dieu savait par avance quel était l'état de son cœur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce que dans les circonstances de nos vies, parfois, on ne se retrouve pas face à la peur et que notre foi est fond comme neige au soleil? Et on se dit, les circonstances, elles sont là, mais non, j'y arrive pas parce que je vois pas Dieu. Et puis d'ailleurs, ça nous amène parfois à douter, on dit, bah non, je vois pas Dieu. Du coup, Dieu est pas là. Et je vais pas me confier en lui. Et les circonstances sont difficiles, du coup, non. Puis je viens plus à l'église. Puis je lis plus ma Bible parce que j'ai prié, mais ça marche pas. Dieu a pas répondu comme je voulais. Si t'attends un travail, n'aie pas peur. Attends, Dieu sait ce dont on a besoin. Quand il dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins. Dieu connaît nos besoins. Il connaît ceux des oiseaux, il donne à manger aux oiseaux. Dieu nous donnera ce dont on a besoin. Si t'attends un conjoint, va pas vers la personne qui n'est pas faite pour toi simplement parce que t'aspires à avoir ce conjoint-là. Pour être clair, si ce n'est pas une personne qui aime Dieu, qui veut suivre Dieu, tu vas au-devant de gros problèmes. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas la priorité de sa vie. Et si la priorité de la vie de ton conjoint, c'est pas Dieu, ça va influencer aussi ta vie à toi. Fais ce qui plaît à Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu. Attends. Attends parce que Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu aspires à avoir une femme, tu aspires à avoir un mari, mais attends. Regardons maintenant pendant. Le péché de Saül pendant, il est là. Il dit, il n'est pas anodin. Dieu avait donné une consigne claire. Samuel lui dit, t'attends 7 jours, tu ne bouges pas. Et quand il voit que ça tarde, il lui dit, tu ne bouges pas. Mais Saül n'avait pas à bouger, l'ordre il était direct. D'ailleurs, parfois, Dieu ne nous parle pas de manière directe parce que parfois il sait qu'on désobéirait. Et du coup, on pécherait. C'est pour ça qu'il ne nous parle pas directement. Du coup, on peut remercier Dieu parfois qu'il ne nous parle pas. Ouais. Moi, j'ai vécu ça, hein, je vous le dis. La pensée après, quelle est-elle? Regardons après le péché. La pensée de Saül, là, à ce moment-là, ce n'était pas la repentance. Mais il avait 2 arguments. Regardons ces 2 arguments. Premier argument, en fait, c'est au lieu d'assumer ce qui est fait, en gros, il dit, mais oui, mais si tu avais été à l'heure, ce ne serait pas arrivé. OK? En bref, c'est la faute de Samuel. Il est gonflé, hein? Il est vraiment gonflé, Saül, à ce moment-là. Il dit, c'est de sa faute. D'ailleurs, on ne fait pas parfois la même chose en disant « Ouais, je me suis mis en colère, mais si, t'avais qu'à pas m'énerver !» Ouais, je t'ai fait du mal, mais t'avais qu'à pas commencer. » Ou encore « Ouais, je regarde du porno, mais t'avais qu'à coucher plus avec moi. » Ouais, je suis désolé, mais ça, il faut donner la vérité. Oui, c'est vrai, je dis du mal d'elle, mais avec tout ce qu'elle a dit de moi, avec tout ce qu'elle a fait, hein. Ah ouais. En bref, c'est toujours la faute des autres. En fait, Saül, il veut pas assumer sa responsabilité. Le souci, c'est que Dieu, il déteste ça. Adam et Ève, ils ont fait pareil. D'ailleurs, propos macho d'Adam, « Ouais, mais c'est la faute d'Ève. C'est la faute d'Ève. » Le gars, il ne voulait même pas assumer. Et dans le couple, c'est l'homme qui porte la responsabilité. Moi, quand il y a un problème et qu'on est face à une difficulté, je sais qu'avec Daniel, ma femme, on doit prendre le temps et c'est à ma responsabilité. Faut pas qu'on tombe dans l'auto-justification, comme ça a eu. Faut qu'on fasse attention à ça. Et on peut être champion du monde là-dedans. Au point que les batailles humaines, on les gagne, mais devant Dieu, on a tout perdu. Ne tombons pas dans l'auto-justification. Deuxième argument de Saül. Ça va, vous suivez toujours, c'est bon? Ok. Deuxième argument. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont m'attaquer. Je me suis fait violence. Arrête de mytho. T'étais en train de pécher, t'étais en train d'avoir les pétoches, t'avais tellement peur que si t'allais pas agir, c'était fini. T'avais trop peur, t'avais les pétoches. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu vas pas mentir à Dieu quand même. Ananias et Saphira qui avaient menti à Dieu, comment ils ont fini? Ils sont morts. Ils sont morts. Deuxième argument de Saül, c'est il réécrit l'histoire. Il est en train de réécrire l'histoire. C'est grave. C'est grave. Et le pire, c'est quand le jugement tombe après qu'il s'est justifié, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien du tout. Pas de repentance. En fait, il perd le fait que sa descendance allait régner. Mais comme il est toujours roi, ça va. Quand la conséquence ne nous atteint pas directement, c'est pas grave, ça va. Ou parfois, quand on se retrouve boiteux dans notre relation avec Dieu, c'est pas grave, j'arrive toujours un peu à avancer. N'attendons pas d'être complètement morts pour réagir devant Dieu et revenir à lui de tout notre cœur. Le pire, c'est que une fois qu'il y a eu ce péché-là, ça ne s'est pas fini tout de suite pour lui. Il s'est retrouvé face à d'autres situations. Et en fait, les autres situations montrent qu'il n'a rien compris. Rien. Comment ? Quand Dieu demande à Saül de tuer tous les Amalécites, le roi, le bétail, tout ce qui appartenait aux Amalécites, il ne tue pas le roi, il ramène les plus belles bêtes. Qu'est-ce qu'il raconte après ? Excuse nouvelle. Non, je voulais faire un sacrifice pour Dieu avec les belles bêtes. Tu me racontes quoi ? Tu avais un ordre direct, tu devais tuer tout le monde. Pourquoi tu fais ça ? Ça, c'est Samuel qui vient encore le confronter. Et il ne fait rien. Il réécrit l'histoire, pas de repentance, rien. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Encore plus gonflé. Il dit, Samuel, s'il te plaît, honore-moi devant les anciens. Honore-moi devant les anciens. Parce que Dieu s'est retiré de moi. Il était prêt à perdre sa relation avec Dieu plutôt que de perdre son ministère, de perdre sa renommée, de perdre sa reconnaissance, de perdre ce qui faisait de lui son autorité, de perdre l'estime qu'il avait des autres hommes et qui en fait n'était que neige au soleil puisque ça allait fondre au fur et à mesure. Parce que celui qui nous donne l'autorité, celui qui nous donne la renommée, c'est quand on se fonde en Dieu. Saül, il avait choisi de perdre sa relation avec Dieu plutôt que de choisir de conserver cela au détriment de l'estime des autres hommes. Vous voyez un peu la gravité maintenant du péché ? Vous voyez comment c'est insidieux ? Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de tomber dans l'adultère, de tuer quelqu'un, d'être dans l'ivrognerie, tous ces mots-là là, qui sont décrits dans le Nouveau Testament et qui nous disent « faut pas que tu fasses ça, sinon le royaume de Dieu n'est pas à toi et tu seras pécheur et Dieu te rejette. » Vous voyez que même des choses qui, à nos yeux, semblent plus modestes, vous voyez l'importance que ça a ? Faut qu'on fasse vraiment attention à qui l'on est. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. En fait, Dieu ne fait pas de différence entre les péchés, mais il sonde les cœurs et les intentions avant, pendant et après le péché, de sorte qu'il est un juste juge. En fait, Saül, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Il est passé de la peur, c'est-à-dire un manque de confiance en lui-même qui impactait sa foi en Dieu, du coup, au point qu'il perdait son autorité et qu'il perdait sa relation avec Dieu. Ok ? Ça, c'est l'état de peur. Et il est passé à quoi ? À la colère. Si bien qu'en ne voulant pas perdre la face devant les autres, il se met à vouloir tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Je n'ai pas le temps de le présenter, mais à un moment, Saül voulait tuer son fils Jonathan. À un moment, Saül voulait tuer David, alors qu'il avait l'autorité. Il était jaloux et sa colère l'a rongé au point que l'orgueil était là et qu'il ne voulait pas s'humilier. Il est passé d'une peur, d'une timidité maladive, de quelque chose qui était là en train de le pourrir à l'intérieur, c'est-à-dire une faible estime de lui-même, à une trop haute estime de lui-même, qui correspond en fait à l'orgueil. Mais la réalité, c'était qu'il n'était pas dans la justesse de ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire une bonne humilité, mais aussi une bonne fierté. On est appelé à être fier d'être chrétien. On n'est pas appelé à Il y a pas de la. Faut qu'on fasse attention à pas tomber dans la fausse humilité. Non, moi j'ai pas fait ça. Non, mais si Dieu t'a donné un don, reconnais ton don. Si Dieu t'a donné des capacités, reconnais tes capacités, mets-les en action pour la gloire de Dieu. Ça c'est la vérité. Et après dire non, moi je veux pas faire ça. Soyons pas dans une fausse humilité. Soyons pas dans une mauvaise estime de soi-même ou dans une surestimation de nous-mêmes au point que on n'est plus au centre ce que Dieu veut. La foi en lui et une bonne estime de soi. Comment ça vient, ça ? C'est que ça vient par une identité en Christ affermie. Il n'avait pas une identité en Christ affermie. Quel péché avons-nous pu commettre à cause de la colère qu'il y a en nous? Quel péché avons-nous pu commettre à cause de notre manque de confiance en Dieu et de notre manque de confiance en nous-mêmes? En préparant ce message-là, je me suis dit, mais qui est-ce que je suis, moi, pour commencer à parler de ça? Je me sens bien, bien faible. Et Dieu me rappelait, mais viens devant moi. Viens devant moi. C'est de moi que tu as besoin, il me disait. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est un appel de Dieu pour qu'on soit là, connecté avec lui. Est-ce que dans nos attitudes, dans le fait que notre identité ne soit pas fermée en Christ, est-ce qu'on n'est pas parfois des fardeaux pour nous-mêmes ou pour les autres? Dieu veut nous renouveler dans notre intelligence. Dieu veut nous renouveler dans notre pensée au point que on sera différent. On recevra une nouvelle identité. Vous avez vu comment ça coûte cher de ne pas avoir confiance en Dieu? Mais Dieu nous a racheté à un grand prix. On l'a chanté. On l'a chanté. Dieu est venu déchirer le voile. Mais cette relation avec Dieu, cette foi avec Dieu, le don, et qui est un don de Dieu d'ailleurs, ce n'est pas nous qui créons la foi, c'est un don de Dieu, mais elle peut seulement se développer lorsque l'on est dans une attitude humble devant Dieu, c'est-à-dire quand on se repent. La repentance, c'est le premier acte par lequel on doit passer. Jean-Baptiste, il a instauré ça quand il parle quand il institue le premier baptême, baptême de repentance. Il annonce le roi des rois. C'est quoi? Le baptême de repentance, c'est pas je vais me baptiser pour être repenti, non, je vais me repentir pour être baptisé. Sauf que la repentance, c'est pas quelque chose une fois puis après j'ai terminé. Non, c'est quelque chose qui est en continu. C'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. Donc, l'argument, ouais, moi je suis chrétien depuis longtemps, du coup j'ai pas besoin de repentance, ça tient pas. Saül, il était un homme nouveau. Pourtant, on voit bien qu'il avait besoin de se repentir après être devenu un homme nouveau. Nous aussi, nous devons nous humilier devant Dieu pour chercher sa présence. Et on doit recevoir cette nouvelle identité et sortir de la prison de la peur, sortir de la prison du manque de confiance en soi, sortir de la prison de la honte, de la colère, de la timidité qui nous ronge. Ça doit tomber parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes renouvelés. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et cette véritable liberté s'obtient en réalisant que Dieu est fidèle. Et que Dieu accomplit ce qu'il dit et parce qu'il a déjà tout accompli. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais ça peut arriver que si on l'accepte et si on se repent. Ce n'est pas un choix de dire « Ouais, je sais que Dieu existe, puis je suis loin de lui. » Non, 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 non. La repentance, c'est le chemin par lequel on doit passer pour qu'il y ait un changement véritable dans notre vie. David l'avait compris et son attitude, elle était totalement différente. Et on va le voir pour terminer, parce que son attitude était totalement différente, si bien que le jugement de Dieu a été en conséquence par rapport à son attitude. Le mot repentance, ça veut dire changer, en hébreu, ça veut dire littéralement changer de direction, changer de chemin. Il faut qu'on s'arrête. Il est important qu'on s'arrête face à l'euphorie de la situation. Peut-être on a des vacances. Profitons de ces temps de vacances pour nous arrêter devant Dieu et dire où est-ce que j'en suis dans mes voies, où est-ce que j'en suis dans mon chemin. Si ta relation avec ta femme ou ton mari, elle est mauvaise, si ta relation avec tes enfants, elle est de mauvaise qualité, si tes relations avec tes collègues au travail sont mauvaises, si ta relation avec tes frères et sœurs en Christ, à l'église, elle est mauvaise, considère tes voies. Fais pas comme Saül en disant « C'est ta faute, t'avais qu'à arriver à l'heure. » Faut qu'on se laisse sonder par Dieu pour savoir si ce n'est pas notre responsabilité aussi. Parce que quand on considère ça, c'est le début du changement. Le but, c'est de ne pas se flageller, mais de chercher Dieu pour qu'un changement s'opère dans nos vies. Je sens dans mon cœur, il y a des couples et des familles qui sont mal en point dans cette salle. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Il y a des couples qui sont brisés par une mauvaise sexualité, par de la violence, par de la colère, par une colère mal gérée qui a produit la mort dans vos relations. Il y a quelque chose qui est mort en vous et il faut que ça ressuscite. Il faut que ça ressuscite. Quand on regarde la situation de David, David il est tombé avec Bathsheba, mais il n'y a pas eu l'épisode 2, il n'y a pas eu Bathsheba le retour ou Bathsheba 2, il n'y a pas eu ce film-là qui a été tourné. Pourquoi ? Parce qu'il s'est repenti. Parce qu'il s'est repenti. Et vous savez là où on retrouve ça ? Dans le psaume 51. Il s'est confessé. Il a dit stop. Il a dit stop. Et il a dit, voilà ce qu'il a dit, David. Je ne vais pas lire tout le passage, mais les points clés. Il a dit, c'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison lorsque tu prononces ta sentence. David, il n'est pas en train de mettre de faux arguments. Et il sait bien que ce n'est pas tant contre des hommes et des femmes, même si c'est vrai qu'il a fait ça, mais c'est contre Dieu lui-même qu'il a péché. Et il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. » À opposer avec ce que Saül disait, « Honore-moi devant mes pères, et parce que Dieu s'est retiré de moi. » Là, il dit, « Ne me rejette pas loin de toi, Seigneur, ne me rejette pas loin de toi. Ne me rejette pas loin de toi. » Et vous savez, quand est-ce que David a fait ça ? Il a fait ça quand Nathan est venu le confronter face à son péché. Nathan, c'était un prophète, je ne vais pas le lire, mais juste pour résumer, Nathan se présente devant David. Mais quand Nathan se présente devant David, ce n'est pas une rencontre en catimini. Ce n'est pas une rencontre, là, il est tout seul. Quand tu vas dans le palais, forcément, il y a du monde autour de toi. Forcément, il y a les serviteurs autour de toi. Qu'est-ce que David a fait ? Il s'est moqué que les autres le regardent. De toute manière, il a été confronté face au péché. Qu'est-ce que David fait ? Peu importe la royauté, peu importe mon statut, je m'agenouille devant Dieu parce que j'ai besoin de ma relation avec Dieu, parce que j'ai besoin de vivre, de ne pas vivre éloigné de Dieu, parce que j'ai besoin de retrouver ce que Dieu voulait. Dieu était tellement précieux pour David que peu importe ce qui se passait, David s'est humilié publiquement. Il a vécu la délivrance et la restauration dans sa relation avec Dieu. Et même s'il a vécu ça, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Ça ne va pas juste tout changer et puis il n'y a plus rien comme pour les conséquences de notre péché. Quand tu as péché, mon frère, ma sœur, si tu tues quelqu'un, tu vas en prison. Parce que c'est les conséquences du péché. Et tu peux pas, même si Dieu, devant Dieu, t'es saint, t'es lavé, devant les hommes, t'as à répondre parfois. Mais je crois que si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. En fait, ce que Dieu veut dire, c'est que si tu t'humilies, tu vas recevoir la restauration. Je crois que ce matin, il va falloir qu'on considère ça. Le but, là, c'est pas qu'au tour de rôle, on vienne tous sur l'estrade et qu'on confesse nos péchés. Mais ce matin, si il y a quelque chose qui est là dans ton cœur, tu as une relation qui est brisée, va voir la personne avec qui t'es. Demande-lui pardon, dis-tu, t'as péché. Même si d'ailleurs tu te dis, ouais, mais il est un peu responsable, fais pas comme Saül. Assume ta responsabilité de ce que t'as fait. Et même si après l'autre, il te crie dessus, ouais, c'est ta faute, c'est toi qui m'as fait ça, ta 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 ta, et tu commences à recevoir des coups là comme ça. Non, juste accepte ça parce que c'est devant Dieu, à un moment, tu fais le pas. C'est devant Dieu. Et reçois cette restauration, reçois cette guérison. Peut-être qu'à cause de ça, tu vas avoir du trouble dans une relation avec un ami, avec ton conjoint, avec ton ministère, avec la réputation que tu as, mais fais comme David. Dis, ouais, Seigneur, je ne peux que m'humilier, je ne suis rien. Je ne suis rien si toi, tu n'es pas là. C'est toi qui fais ma force, c'est toi qui fais ma bénédiction. Quelle décision tu vas prendre ? Quelle décision tu vas prendre ? Il ne faut pas qu'on laisse passer ce moment-là. qu'on laisse passer ce moment-là. Il y avait ça que je voulais vous partager ce matin. J'aimerais prier. Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, qui nous sommes. On ne veut pas, Seigneur, tomber dans des faux semblants. On ne veut pas avoir des excuses, des arguments comme Saül. On veut considérer qui nous sommes, Seigneur, et fléchir le genou